France Inter, franceinter.com.
Bonjour, aujourd'hui, Gengis Khan. Ce que l'on pensera de moi m'est égal. Gengis Khan. Deux mille ans d'histoire. Venus du bout du monde, ils ont semé la terreur partout où ils passaient, en laissant derrière eux des pyramides de crânes et les corps empalés, brûlés vifs, ébouillantés ou décapités de tous ceux qui leur résistaient. En 40 ans à peine, les Mongols, qui ignoraient l'écriture et vivaient de chasse et de pêche dans une des régions les plus pauvres du monde, ont construit un immense empire qui allait de la forêt sibérienne jusqu'au nord de l'Inde et de la mer de Chine jusqu'aux rives de l'Adriatique. Un empire éphémère dont il ne reste rien, sinon le nom de celui qui l'a conquis, Temujin, qui en 1206, il y a tout juste 800 ans, avait rassemblé derrière lui toutes les tribus de Mongolie en prenant le nom de Gengis Khan.
La nation mongole se fera un jour, Temugin. Mais si les Merkites se joignent à nous, ce jour viendra plus vite. Les Merkites n'ont aucun besoin d'être protégés par tes hommes, parce que ce sont de meilleurs guerriers. Les Merkites sont forts, puissants, on les craint. Qui te permet d'affirmer que c'est toi qui as été choisi pour régner?
Réunir les Mongols en nations au lieu d'être partagés en tribus ennemies.
Avec le seigneur Temujin à leur tête.
C'est écrit dans les étoiles. Guin, le saint homme, y a lu ma destinée.
Sous le ciel bleu, il n'y aura d'autre seigneur que Temujin, notre tout-puissant Gengis Khan. Nous tous lui devrons obéissance.
Georges Chalion, bonjour.
Bonjour.
Il y a 800 ans, tout juste, donc en 1206, Gengis Khan rassemblait autour de lui les Mongols avec lesquels il allait conquérir le plus grand empire de la Terre, un de ces empires nomades auxquels vous avez consacré un livre qui vient d'être réédité en poche chez Perrin. Empire nomade dont vous dites, Gérard Chalion, qu'ils ont finalement compté plus, qu'ils ont joué un rôle plus important dans l'histoire que tous les grands états sédentaires, comme si Tamerlan, Attila, Gengis Khan ou Gengis Khan, comme on dit, avaient plus compté finalement que Napoléon ou César.
Mais en ce qui concerne l'ampleur de ce qu'ils ont dominé, c'est certain. César, par exemple, en dehors de la campagne des Gaules, ce n'est pas, sur le plan militaire, une gloire extraordinaire. En ce qui concerne Napoléon, c'est un génie, indiscutablement. Mais l'empire qu'il s'est taillé, du point de vue de la superficie, fait à peine le tiers de celui de Gengis Khan. En d'autres termes, dans la mesure où les histoires qu'on a écrites à partir du 19e et au début du 20e siècle sont essentiellement des histoires nationales, c'est l'histoire de l'Allemagne, de la France, de la Grande-Bretagne, etc., etc., on s'est très peu préoccupé de ces peuples qui, en définitive, pour la plupart, ne sont pas devenus des nations par la suite. Bon, aujourd'hui, évidemment, il y a une Mongolie. Mais par exemple, qu'est-ce qu'on sait sur l'Asie centrale ? Simplement que tout cela est séparé en un certain nombre d'États et on ne va pas écrire l'histoire de tel peuple pour en faire une épopée. Il y a juste ces Mongols dont on sait en tout cas qu'ils ont déterminé une chose unique, l'empire de Gengis.
Alors de quoi vivaient-ils? Vous dites ils suivaient l'herbe et l'eau, c'est-à-dire qu'ils étaient des pasteurs en fait.
Ce sont des pasteurs nomades. Ils vivent essentiellement à base de du mouton, le mouton, le yak, la chèvre, le cheval. C'est d'ailleurs le cas aujourd'hui. Moi j'étais en Mongolie il y a moins d'une dizaine d'années et on continue. Les deux tiers de la population se trouvant en définitive encore dans le mode de vie pastoral à dépendre des mêmes choses et à manger les laitages, essentiellement, et de la viande.
Alors le cheval, évidemment, ça a été l'instrument principal de la conquête. C'était des cavaliers tout à fait extraordinaires, les Mongols. Vous dites même, Gérard Chalian, que le cheval leur servait à tout. C'était des petits chevaux hein, qui n'ont pas grand-chose à voir avec les grands chevaux arabes, les grands pur sang qu'on a aujourd'hui en Occident, mais alors avec lesquels ils ont conquis la terre entière. Vous dites même qu'ils buvaient le sang du cheval quand ils en avaient besoin.
Oui, quand ils n'avaient pas d'autre nourriture, ils faisaient une petite incision et ils se nourrissaient du sang du cheval. Ce sont des tout petits chevaux, 1m30 au garrot, mais extraordinairement résistants et qui arrivent à se nourrir même l'hiver en allant chercher l'herbe sous la neige.
Et qui explique la rapidité aussi des déplacements de cette armée que va fonder Gengis Khan. Une armée d'ailleurs et forcément compte tenu de la région d'où ils viennent, de cette Mongolie, une armée de soldats qui sont très sobres mais extraordinairement résistants à des températures extrêmes comme celles qu'on trouve en Mongolie.
Ben la Mongolie, si vous voulez, c'est des hivers extrêmement froids, ils étaient torrides. Donc vous êtes déjà trempé en quelque sorte dans une écologie très dure. En tant que nomade, vous êtes forcément sobre. Et pourquoi est-ce que cette armée se déplace plus rapidement que les autres? C'est que on dispose de beaucoup de chevaux et chaque combattant a 4, 5, parfois 6 chevaux de remonte. En d'autres termes, dès que votre cheval est fatigué, vous passez sur un autre, puis ensuite sur un autre. Ce qui fait que dans la même journée, vous pouvez faire les 200 km, ce qui est considérable. Quand vous pensez qu'en une dizaine de jours, vous pouvez abattre 2000 km, ça laisse pantois. On peut même se demander si la troupe de Gengis Khan ne se déplaçait pas plus vite que les panzers allemands.
En tout cas, c'est avec cette armée qu'il va étendre justement l'influence des peuples mongols qui n'avaient jamais fait parler d'eux avant Gengis Khan et que ne connaissaient que quelques voyageurs occidentaux de passage.
Notre monde est comme trois grands cercles. Ici, à l'ouest, Samarcande et Bokhara, la terre des Persans.
Et ici, à l'est?
Je ne suis pas allé à l'est de ces montagnes, mais j'ai conversé avec des marchands venus par caravane. Et tous m'ont parlé de la Grande Muraille. Une muraille qu'ont bâti les Chinois pour défendre leur empire.
Et là, qu'y a-t-il dans le centre?
Une terre vide, un pays désolé où seuls les Mongols vivent.
Pourquoi le pays mongol est-il vide alors qu'il est au centre des parties riches de l'Ouest et de l'Est chinois?
Parce que les tribus mongoles, les Merkites, les Salkites, les Tangoutes et les autres sont trop occupés à se combattre.
Mais si elles réussissaient à s'unir?
Les Mongols ne peuvent s'unir que dans la mort.
Quel était le monde à l'époque justement où va commencer cette conquête, cette expansion des Mongols, Gérard Chalian, parce qu'il y avait de très grands empires, et en fait, il était entouré par de très grands États.
Oui, d'abord la Chine, évidemment, qui est séparée en deux. Au sud, la Chine des Song, au nord, une Chine occupée déjà par des dynasties de nomades qui se sont sinisés, car c'est caractéristique de la Chine. La Chine sinise culturellement et phagocyte, avale ceux qui s'intègrent à elle. D'autre part, on a ce qu'on appelle le Khwarezm, qui est un empire extrêmement fugace, mais qui existait dans un endroit qui nous est bien connu, c'est Samarcande, Boukhara, Tashkent, un endroit où il y a eu de nombreux empires, l'Asie centrale, et qui d'ailleurs très peu de temps après sera le fief de Tamerlan. Ensuite, nous avons les Byzantins, vous savez que l'empire romain d'Orient, alors que Rome s'effondre au 5e siècle après Jésus-Christ, l'Empire romain d'Orient va perdurer jusqu'au 15e, soit 1000 ans de plus. Ils sont là. Et puis, tout au fond, c'est comme ça que les Mongols le perçoivent en tout cas, c'est les Occidentaux, avec chez les Français, Philippe Auguste, il y a la papauté, etc. Voilà le monde dans lequel les Mongols arrive.
Et les Mongols dont personne ne parle, parce qu'on l'a entendu dans cet extrait de film, ils sont
très profondément divisé. Ce sont des peuples, c'est une confédération de peuples, en
oui,
fait.
Bah, le génie de Genghis Khan, justement, c'est d'avoir réussi, à travers une patiente diplomatie et également une épreuve de force considérable, à bâtir une confédération. Comment est-ce qu'il l'a bâtie ? Ben, il l'a bâtie à partir de l'armée, évidemment, mais cette armée, il va la détribaliser, c'est-à-dire que on ne laisse pas, comme d'habitude, les chefs traditionnels à la tête de leurs propres troupes. Au contraire, on garde les troupes ici à la tête duquel on va nommer des gens de confiance, des gens qui doivent tout à Genghis Khan. On va conserver en otage les fils de certains de ses chefs qui sont trop importants et on va les éloigner, ce qui fait que l'armée, en quelque sorte, ne va plus représenter une tribu additionnée à une autre, mais une armée relativement homogène dans laquelle on va insuffler une discipline particulière qu'on appelait le yasa, c'est-à-dire la loi selon laquelle on se comporte d'une certaine façon. Exemple, il est totalement interdit, peine de mort, d'avoir l'adultère au sein des Mongols. On peut avoir l'adultère à l'extérieur.
Ça, ils vont pas s'en priver.
Mais dedans, non. Pourquoi ? Parce que l'adultère au sein des Mongols, c'est la vendetta. Ça veut dire on va commencer à s'entretuer. Et naturellement, quand on s'entretue, qu'est-ce qu'on va faire ? Si je suis merkite, je vais aller chercher mes copains merkites. Donc, ceci est interdit rigoureusement. Et il va se faire aussi une armée qui est extraordinaire.
Très égalitaire, par exemple, vous le dites. Je crois que la vie quotidienne du simple soldat était la même que celui de son général. Il mangeait la même chose, par exemple.
Oui, très important. On mange la même chose. Il est interdit, sauf cas extrêmement rare, de frapper les subordonnés. Vous savez que c'est une chose très rare, ça. Même pendant la guerre de 14, on voit encore des trucs de ce genre. C'est-à-dire que l'installation de quelque chose de démocratique, c'est très difficile. Alors, je ne dis pas que Genghis Khan était un démocrate, je dis simplement qu'il cherche la fidélité absolue, c'est-à-dire à ne pas déplaire à ceux qui lient leur destin au sien.
Et puis alors, une armée considérable qui a dépassé les 100 000 hommes, ce qui pour l'époque était absolument hallucinant. Il faut dire qu'on était engagé dans cette armée de 15 à 65 ans, ce qui est quand même beaucoup, Georges Chalion. C'est ce que vous dites, en tout cas.
Oui, enfin l'adulte, si vous voulez, mettons de 18 à 60, tout le monde est combattant. Ce qui est intéressant, c'est que il n'y a pas des combattants et des non-combattants. Il y a des meilleurs combattants et des moins bons. D'autre part, alors je dirais la caractéristique particulière des Mongols sous Genghis et après, c'est une discipline comme on n'en avait jamais connue avant.
Et aussi une arme qui était un peu la bombe atomique des Mongols, si je puis dire, et qui a joué un rôle énorme dans la conquête, c'est l'arc. On les voit partout dans toutes les gravures de l'époque. C'était des archers, des cavaliers redoutables, mais des archers aussi.
Oui, et c'est un arc à double courbure. Un arc à double courbure, ce qui signifie qu'il portait plus loin que l'arc classique. Il faudra attendre l'arc gallois en Europe pour avoir un arc qui va porter à peu près à la même distance.
Alors, une armée qui est l'instrument de la conquête, mais pourquoi la conquête ? J'étais surpris en vous lisant, Gérard Chalion, d'apprendre qu'à l'époque, la Mongolie, contrairement à ce qu'on croit, est assez riche. Autrement dit, c'est pas pour aller chercher la richesse ailleurs que cette expansion s'est produite à partir de 1206.
C'est-à-dire que les Mongols n'ont pas été poussés, comme c'est fréquemment le cas chez les nomades, par les difficultés, la famine, etc. Non, c'est parce qu'ils ont commencé à avoir cette puissance potentielle, avec cette armée admirablement entraînée, qui vont se dire, bon, bah, on attaque comme ce qu'on a toujours désiré, d'ailleurs, la terre des sédentaires qui était depuis... on peut dire depuis le 4e siècle avant Jésus-Christ, la Chine. Peut-être. La Chine, c'était ce qui était convoité le plus par les nomades d'Asie centrale.
Peut-être aussi tout simplement pour donner un projet commun, pour fédérer un peu mieux justement ces tribus mongoles
sans
qui
doute
étaient divisées jusqu'à Genghis Khan. Alors, première étape, vers quel pays se tourne-t-on ? Vers quel empire ? C'est vers la Chine. Alors là, ça se passe relativement vite. Il y a quand même une grande muraille qui a été construite bien avant. Ils la contournent, ils arrivent devant Pékin. Là, ça va être plus difficile parce qu'il manque, dites-vous, Gérard Chalion, de l'armement nécessaire pour briser les murailles qui entourent sur Pékin.
Oui. Alors évidemment, la Grande Muraille de l'époque n'est pas celle qu'on a bâtie sous les Ming, c'est-à-dire qu'elle était pleine de trous, en quelque sorte. On pouvait facilement se glisser dedans parce qu'elle était faite par pans. D'autre part, quand on est plus nombreux sur un point, on arrive toujours à forcer. Et ce qui effectivement va être le problème majeur des Mongols, c'est qu'ils ne disposent pas d'instruments de siège. Ils vont combler ça assez rapidement en s'emparant de prisonniers, en les entassant les uns sur les autres et en les escaladant. Et puis très rapidement, bien sûr, ils vont se procurer chez les Chinois des gens qui connaissent ce type de technologie.
Les catapultes, les balistes.
Et ils vont se servir très très rapidement de tout cela. Ils vont d'ailleurs faire la même chose avec les Persans. Ce qu'il faut que je vous dise sur l'armée, c'est que elle est vraiment spéciale. L'armée est divisée en petites dizaines. Et si deux ou trois dans la dizaine fuient, il est établi par le Yasa qu'ils sont tous exécutés.
Le Yasa,
c'est... Le Yasa, c'est la fameuse loi édictée par Genghis Khan. Donc exécution de tout le monde si trois seulement fuient.
Alors avec cette armée, donc, ils vont finir après un très long siège par s'emparer de Pékin en 1215, ville d'ailleurs qui est mise à feu et à sang, livrée à l'armée de Genghis Khan pendant à peu près un mois, tandis que lui-même tourne son armée de 100 000 hommes dans une autre direction.
Nous marcherons vers l'ouest, laissant la Chine entre les mains de Jebai. Subodai marchera vers les steppes du nord, pendant que Kassar descendra vers le sud pour s'emparer de l'Inde. Samarcande et Bokhara seront vite à notre merci. Alors la Perse sera pour nous une proie facile. Et quand nous serons maîtres du centre de la terre, les Mongols régneront sur le monde.
Tachant mongol, éloge de Genghis Khan qui avait fait donc de son peuple divisé une nation conquérante, mais alors au prix de violences absolument inouïes. Gérard Chalian, c'est même ce que l'on retient tout de suite quand on pense aux Mongols à l'époque de Genghis Khan, la peur qu'ils ont inspirée et qui était volontaire. Mais c'est vrai, ces pyramides de crânes, ces ennemis ébouillantés, les survivants qu'on réduit en esclavage et que l'on met en première ligne pour se battre, c'était épouvantable. La prise de certaines villes, comme Merv en Asie centrale, comme Samarcande, je crois, Pékin qui a été ravagé, c'était épouvantable. Cette terreur, vous semblez dire que c'est une espèce d'instrument. Il s'agissait au fond de désarmer, de pousser les villes qu'il fallait prendre à ne pas résister.
Oui, il faut moduler sur la terreur. Vous savez, tout ce que nous avons comme documents, c'est évidemment les documents des vaincus. Et quand on regarde l'histoire, chose à laquelle je me suis intéressé, on s'aperçoit que sous les Assyriens, on n'était pas tendre non plus. D'ailleurs, les croisés, en 1099, quand ils s'emparent de Jérusalem, passent tranquillement au fil de l'épée tout le monde. Donc, il faut voir qui parle. Alors, ce qu'on peut dire sur les Mongols, c'est que il s'agissait, comme ils n'étaient pas si nombreux que cela, de terroriser de façon à ce que les autres se rendent. On épargnait toujours un certain nombre de gens pour qu'ils puissent se rendre dans la ville voisine et annoncer que, si on refuse de se rendre et qu'on est battu, on est passé au fil de l'épée, mais que B, si on consent à se rendre, eh bien, on sauve sa peau, on perd ses biens. Donc, c'est une politique, en quelque sorte, qui est pratiquée.
C'est un
terrorisme d'État, exact. Et où il s'agit, en somme, de dissuader l'autre de vous résister.
Ce qui se faisait d'ailleurs dans beaucoup d'armées contemporaines de celle de Genghis Khan. Oui. Et en même temps, cette violence extraordinaire est compensée aussi par une chose surprenante, c'est que ces Mongols se montrent extrêmement tolérants en matière religieuse. Ils sont eux-mêmes, pour l'essentiel d'entre eux, des animistes, ils pratiquent le chamanisme, mais ils sont tolérants avec les autres religions qu'ils rencontrent.
Oui, au contraire, ils discutent, ils se font raconter qu'est-ce que c'est que l'islam, qu'est-ce que c'est que le christianisme. Il y aura même à Karakorum, leur capitale, des débats entre divers sages qui sont dépositaires du savoir islamique ou des chrétiens à qui on dira « bon, bah, exposez et puis nous, on vous écoute ». D'ailleurs, pour l'essentiel, la première génération ne sera convaincue par rien.
C'était pas une guerre de religion, autrement
dit. C'est pas du tout une guerre religieuse. Non, c'est une guerre entre nomades et sédentaires. C'est, pour le nomade, le sédentaire, c'est quand même l'autre, avec un grand A. C'est-à-dire que il n'y a pas de quartier à faire à ces gens qui sont si différents, qui sont mollement installés dans des villes et qui sont tellement plus riches que vous.
Alors, cela dit, ils prennent quand même des habitudes de peuple ou d'État sédentaire, Gérard Chalian, parce que vous rappelez l'importance que prend cette administration que va mettre en place pour la première fois chez les Mongols Gengis Khan dans sa capitale, Karakorum, qui est en Mongolie, qui est à l'ouest, je crois, de l'actuelle capitale Oulan-Bator, c'est des ruines, hein, Karakorum, aujourd'hui. Une administration, des routes également, avec des relais de poste tous les 40 kilomètres, et cela pour animer, pour permettre un commerce absolument florissant à l'époque. C'est le transit entre l'Extrême-Orient et l'Occident.
Oui, il y a deux phases. La première, c'est qu'ils s'aperçoivent effectivement qu'il y a beaucoup à apprendre des sédentaires. Non seulement les instruments de siège, mais également l'administration. Alors au début, ils prennent des Persans et des Chinois, essentiellement, qui sont les deux grandes sociétés qu'ils vont rencontrer à l'Est et à l'Ouest. Et puis d'autre part, ils vont instituer ce qu'on a appelé d'ailleurs une paix mongole. C'est-à-dire que en réalité, alors qu'on ne les présente en définitive que comme des tueurs, les Mongols vont pendant un siècle et demi, presque deux siècles, parce que l'Empire va perdurer après Gengis Khan, ils vont avoir une ère immense à travers laquelle la fameuse route de la soie va pouvoir être sûre. C'est-à-dire que les pèlerins, les marchands, tous ceux qui cheminent entre, la frontière de la Russie de l'époque et puis la Chine vont se déplacer en étant tranquilles. Ils vont pas être attaqués comme on était attaqué d'habitude lorsqu'on était en caravane, même relativement nombreuses.
Et cela même après donc la mort de Gengis Khan en 1227.
J'ai vécu pour voir le jour où toutes les tribus mongoles sont devenues un peuple. Mais ce sont mes fils qui en feront une grande nation, que mon peuple voit ses chefs.
Selon la légende, les derniers mots de Gengis Khan furent les suivants.
J'ai conquis pour vous un vaste empire, mais ma vie est trop courte pour conquérir le monde entier. Cette tâche vous incombe désormais.
Et c'était l'extrait d'un excellent téléfilm de la BBC. Effectivement, après la mort de Gengis Khan, ce sont ses fils, ses petits-enfants qui vont encore doubler pratiquement la taille de l'Empire vers l'Est, hein, où Kubilai Khan va achever la conquête de la Chine, qui est un descendant de Gengis Khan, et même en devenir l'empereur. Il va devenir bouddhiste. Mmh. Il va d'ailleurs abandonner la capitale Karakorum. Sa capitale, ça va être Pékin. Vers l'Ouest aussi, avec Joshi puis Batu, qui sont des enfants ou petits-enfants de Gengis Khan, et qui vont atteindre la Hongrie, la Silésie, ils vont même se battre contre les chevaliers teutoniques, la côte de l'Adriatique, vers le sud aussi, ça c'est extraordinaire, c'est deux siècles après Gengis Khan, c'est un de ses descendants qui va créer la dynastie des grands Moghols en Inde, et puis alors brusquement, entre-temps, tout ça aura disparu. La capitale n'est plus que ruine, on ne sait même pas où a été enterré Gengis Khan. Comment cette espèce d'évaporation dans l'histoire, comment ça s'est produit, Gérard Chalian?
Ils ont tenu deux siècles et demi, et le nombre des empires, quand on regarde l'histoire en arrière, qui ont perduré, est extrêmement limité. Très peu d'empires ont duré plus de 2 siècles et demi. Au contraire, la plupart des empires durent 2 ou 3 générations et puis ça s'éteint. Pourquoi ? Parce qu'en général, on s'émiette. Chacun veut se constituer son fief et celui qui va durer le plus longtemps, évidemment, ce sera la zone qu'on appelle aujourd'hui russe, en fin de compte, celle de l'Asie centrale, parce que c'est au fond là leur berceau. Et il va y avoir la contre-offensive des sédentaires qui est menée par Ivan le Terrible, qui pour la première fois dans l'histoire va partir d'ouest vers l'est.
Et puis alors il y a aussi après ça, il va y avoir l'oubli, les nomades eux-mêmes, les grands peuples nomades se sont sédentarisés, ont été absorbés par les grands peuples sédentaires. Et puis un oubli étonnant, y compris dans le pays d'origine de Gengis Khan. Même en Mongolie pendant des années, je crois que ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais on l'a oublié.
On l'a oublié parce qu'on a beaucoup fait pour qu'il soit oublié, vu que sous le régime soviétique, c'était mal vu de parler de Gengis Khan dans la mesure où il avait occupé la Russie, lui en tout cas et ses descendants, pendant 2 siècles et demi. C'était le joug tatar. Depuis que la Mongolie est indépendante, au contraire, le Gengis Khan est partout, on le célèbre. J'ai même vu, pendant que j'y étais, il a participé à la campagne. À la télévision, il y avait marqué, il y a un type qui représentait Gengis, il a dit « j'étais là, je voterai démocrate ».
Donc une vedette, un héros national, même international d'ailleurs, parce que je rappelle qu'en 96, le Washington Post, l'excellent Washington Post, avait même fait de Gengis Khan l'homme du deuxième millénaire parce que, je cite le Washington Post, il incarnait à la fois la nature mi-civilisée, mi-sauvage de la race humaine. Étonnant, l'homme du deuxième millénaire, Georges Chalian.
C'est pas mal vu, vous savez, je crois que cet homme qui est partagé, perdure.
Merci, en tout cas, on le retrouve aussi, entre autres, parce que c'est plus vaste le sujet que vous abordez dans votre livre, dans Les Empires Nomades de la Mongolie au Danube, qui vient de paraître chez Perrin dans les collections Timpus. Et puis vous êtes également l'auteur de Guerre et Civilisation, un livre publié l'année dernière aux éditions Odile Jacob. Vous avez pu entendre des extraits du docu-fiction de la BBC Gengis Khan, d'Edward Bazalgette, disponible en DVD chez France Télévisions, ainsi que du film de Henri Lévin, Gengis Khan, avec notamment James Mason et Stephen Boyd, édité en VHS chez Gaumont. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Patrick Henry, Sophie Moreno, documentation Claire Tesser, Claire Destacan et Mathieu Menossi, une réalisation de Anne Kobilac.